Voilà comment est-ce que l'on doit apprendre à marcher. Des fois, c'est pas facile parce que on peut tomber d'un côté ou on peut tomber de l'autre, mais le Seigneur est celui qui veut nous aider à être équilibrés dans notre foi. Il est celui qui veut nous apprendre l'équilibre. Et quand on regarde la Bible, on se rend compte que le mot équilibre n'est nulle part. Nulle part il est marqué le mot équilibre, mais qu'il est présent partout par contre. Dieu est un Dieu équilibré. Dieu est un Dieu qui, on l'a vu par la dernière fois, qui nous apprend la patience, mais il nous apprend aussi à être zélé, il nous apprend à être fervent, il nous apprend à être bon, et il nous apprend aussi à être sévère. Si on n'est que sévère, ça fait mal. Si on n'est que bon, c'est pas bon non plus. Et ce matin, je voudrais parler, mais avant de vous dire ce sur quoi on va parler, on va lire à nouveau le Galates chapitre 5, verset 22, puisqu'il est question là du fruit de l'esprit, et c'est ce qu'on a parcouru jusqu'à présent, qui nous a été comme un fondement de l'équilibre. Galates chapitre 5, verset 22, il est dit ceci: le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Amen. Ah, c'est bon, vous ne dormez pas. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On a vu que l'amour, c'est vraiment l'équilibre parfait. Quand on marche selon l'amour, ça a été rappelé encore tout à l'heure, si on ne fait pas les choses avec amour, ça sert à rien. Mais si on fait à cause de l'amour, à cause de l'amour que Dieu a mis dans notre cœur, si on obéit à Dieu de cette manière-là, alors on accomplit toute la loi. C'est ce que Jésus a rappelé. On a parlé de joie. Il y a des moments où il faut être joyeux, mais il y a des moments où il faut savoir aussi pleurer avec ceux qui pleurent. Il y a des moments où il faut savoir connaître cette paix que Dieu nous donne, la paix du salut, la paix avec lui. Mais il y a des moments où aussi il faut combattre le bon combat de la foi. Il faut se mettre à genoux, il faut intercéder, il faut s'efforcer aussi de marcher sur le chemin que Dieu nous a tracé. Il y a toutes ces notions d'équilibre donc qui sont là. Ce matin, on va parler de la douceur. Est-ce que c'est bien la douceur? La Bible nous dit que Jésus est plein de douceur. Son fardeau, il est doux et léger. Et il est le Dieu plein de douceur. Regardez ce psaume. On s'arrête pas souvent sur ce psaume-là, le psaume 45. On s'arrête plutôt sur les premiers versets qu'on va lire. Mais c'est intéressant de voir la suite. Psaume 45, verset 3. Il est donné une comparaison de Jésus comme une prophétie par rapport à notre Seigneur. On pourrait lire même au verset 2, c'est un psaume pas de David cette fois-ci, mais des fils de Corée. Et il est même dit chant d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme, ta grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Et regardez l'image qui est là. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par tes merveilleux exploits. Amen. On voit ici une image, un psaume un petit peu particulier. D'abord, il y a une explosion de joie, il y a de belles images, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain, quelqu'un qui veut exprimer mais qui n'arrive pas à le faire, tout ce qu'il y a dans son cœur pour Dieu. Et puis, quand même, il y a quelque chose qui sort de tout cela. Il y a cette image qui est donnée de Jésus qui est comme un guerrier. Alors, c'est une image qui nous fait peur. Quand on parle de guerre et quand on parle de foi, tout de suite, on a des choses qui viennent avec l'actualité que l'on a aujourd'hui. Mais regardez de quelle manière ce guerrier, quelles sont les armes qu'il utilise. Défend la vérité avec la douceur et avec la justice. Voilà les armes. C'est pas une vraie épée qui fait mal, qui coule du sang. C'est les armes de vérité et des armes de douceur. Voilà ce qui se passe quand on met notre foi en Dieu. Il y a une part de douceur qui est là. On sait que le cœur du Seigneur, il bat avec une douceur infinie, un amour parfait. Mais il y a aussi la vérité qui vient équilibrer cela. Et c'est pour cela qu'il est dit dans ce psaume, défends la vérité et défends la douceur. Vous voyez que ça s'équilibre parfaitement, c'est parfaitement harmonieux. Quand on a une foi équilibrée, on sait déjà être plein de douceur. Alors des fois on se trompe parce qu'on a dans notre tête la signification de la douceur que l'on a dans notre monde aujourd'hui, qui n'est pas celle de la Bible. Quand la Bible parle de douceur, ce n'est pas la timidité. Ce n'est pas une personnalité réservée. Ce n'est pas être effacé par rapport aux situations. Ce n'est pas juste de la simple gentillesse, la douceur. C'est plus que ça. La douceur n'utilise pas son pouvoir pour se défendre à des fins égoïstes. On parlait des gens qui étaient doux quand, face à des difficultés à cause de leur foi, c'était des gens qui ne bronchaient pas, qui continuaient d'avancer. Il y avait une douceur dans le cœur. Parce qu'ils n'étaient pas rebelles, ils n'étaient pas en train de murmurer, critiquer contre Dieu, mais ils acceptaient le plan de Dieu en se soumettant parfaitement à sa volonté. C'est ça la douceur. C'est accepter de s'en remettre, pas à nos propres forces à nous, mais à Dieu à 100%, et croire que c'est lui qui va nous défendre contre l'injustice. Mais on sait très bien que la douceur, ce n'est pas croiser les bras en attendant que Dieu fasse tout. Ça, c'est pas la foi, ça. Ça, c'est, je sais pas ce que c'est. Mais c'est pas la douceur. La douceur nous invite à être quand même des personnes qui vont de l'avant. Et là, nous voyons que c'est une arme qui doit être employée. L'arme de la douceur, mais équilibrée avec la vérité. Moïse, il était décrit comme l'homme le plus doux de la terre. Moïse. Et on s'aperçoit que c'est lui qui a reçu la loi, qui a été surnommée par David, la loi de vérité. C'est lui qui a reçu directement de Dieu la loi. Et grâce à cette relation particulière qu'il avait avec la parole de Dieu, il a pu manifester de la douceur. Pourtant, dans la loi, il y a quand même des choses qui sont assez carrées. La vérité, des fois, ça fait mal. On est d'accord? Quand on dit la vérité à quelqu'un, des fois, c'est difficile à entendre. Mais Moïse, il a appris cette douceur. Et toutes les fois où le peuple d'Israël a fait le contraire, ils ont dit « Oui, on va obéir aux 10 commandements, pas de souci. » Juste le jour d'après, il se prosterne devant un veau d'or. Et Moïse, il était là, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit « Seigneur, envoie ton feu sur eux. Détruis-les, ce peuple, ils valent rien. » Non, il était plein de douceur. Il a intercédé. Il s'est mis à genoux, il a prié pour qu'il puisse être délivré. Bien sûr qu'il y en a qui ont payé de leur vie le péché qu'ils ont fait, mais d'autres se sont repentis et ont pu marcher dans les voies de Dieu. Parce qu'il y avait un homme qui a intercédé avec beaucoup de douceur. Et c'est exactement ce que nous devons avoir, à la fois un amour pour la vérité, à la fois un désir d'obéir à cette parole, mais aussi une douceur pour l'appliquer, une douceur pour la recevoir. On voit que dans la Bible, il y a plein de verbes qui sont associés à la douceur. Si on lit la suite de Galates, donc on était au chapitre 5 tout à l'heure, mais si on lit le chapitre 6, verset 1, il est dit ce conseil, « Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le dans un esprit de douceur. » Imaginez une barre de fer qui est là, qui est tordue. Est-ce qu'il faut déployer la force pour que la redresser? On est d'accord. À un moment donné, il faut forcer quelque part pour pouvoir la remettre à sa position. Mais si on force trop fort, qu'est-ce qui va se passer? Ça va casser. Et c'est exactement l'image d'une foi équilibrée. Parfois, il faut redresser les mauvais plis que l'on a, mais il faut le faire avec force et douceur à la fois. On a cette expression en France, une main de fer dans un gant de velours, et c'est exactement ça, une foi équilibrée et capable d'être ferme parce qu'elle est ancrée dans la vérité, mais il y a une douceur apparente qui est là. Redresser avec douceur, afin que la personne puisse être sortie de son travers, et puisse marcher à nouveau sur des voies droites. Ça, c'est l'équilibre de la foi. Dans Jacques, au chapitre 1, verset 21, il est dit « Rejetez toute souillure, tout débordement dû à la méchanceté, mais accueillez ou recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Vous savez que si nous sommes sauvés, ce n'est pas à cause de nos mérites, c'est à cause de la parole qui nous a été donnée par l'intermédiaire de Jésus-Christ, et de l'accomplissement de la parole, on en a parlé encore tout à l'heure au travers de la croix, mais c'est cette parole, si on y met notre foi dedans, qui peut apporter le salut à notre âme. Mais il faut l'accueillir avec douceur. Et on parlait tout à l'heure que des fois la vérité ça fait mal, mais c'est justement le point où le Seigneur veut nous amener. Parce que nous on a vite fait de venir à ce verset, « Oui, je vais aller redresser mon frère. » On oublie des fois la douceur, mais je vais aller le redresser parce qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Bon, déjà, il y a une condition, vous qui êtes spirituel. Ça veut dire que je le fais pas sur un coup de tête. Je le fais pas parce que j'en ai marre, j'ai la colère qui est en moi, il faut absolument que je parle. Ça va exploser. Non, c'est avec douceur, pour son bien, parce que je l'aime. Mais avant d'aller voir mon frère pour le redresser avec douceur, il faut que j'accepte que la douceur est travaillée en moi. Il faut que j'accepte avec douceur la parole. Si j'accepte la parole avec douceur, ça veut dire que le Seigneur va me reprocher certaines choses au travers de sa parole. Il va me reprocher, je ne sais pas, peut-être d'avoir menti, peut-être d'avoir eu certaines pensées, peut-être d'avoir été dans un endroit où j'aurais pas dû aller. En lisant la parole de Dieu, il y a toutes sortes de choses qui remontent à la surface. Est-ce que nous sommes de ceux qui la reçoivent avec douceur, même quand ça fait mal, même quand c'est dur à avaler? Ou est-ce qu'on est de ceux qui la rejettent? Quel est le contraire de la douceur, de manière physique? La violence, oui. La dureté, voilà, très bien. Dans plusieurs prophètes de l'Ancien Testament, on voit qu'ils étaient envoyés vers le peuple. Et par exemple, Ézéchiel, il dit, Dieu dit à Ézéchiel, la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Le contraire de la douceur, c'est la dureté. Et parfois, parce que la parole de Dieu est difficile à entendre, parce qu'elle nous remet en question, elle vient chambouler un peu tout notre fonctionnement habituel, alors on prend un cœur dur. Et quand on a le cœur dur, quand on a le front dur, c'était l'image de quelqu'un qui s'entête, quelqu'un qui continue d'avancer alors que Dieu lui dit « mais va pas par là, il y a un précipice, par là c'est la désolation ». Vous savez ce qui s'est passé par ailleurs quand le peuple d'Israël a persisté? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était juste quelques années avant que Nabuchodonosor vienne déporter des milliers et des milliers de gens, les sortir de Jérusalem et les amener dans un autre pays, loin de leur famille, loin de leur pays, et de les amener dans cette désolation-là. Tout ça parce qu'ils n'avaient pas voulu écouter la voix de l'Éternel. Ils ont eu un cœur dur. Et c'est tellement important de recevoir la parole avec douceur. C'est tellement important qu'à chaque fois que j'ouvre la Bible, je dis « Seigneur, parle-moi. Même si ça fait mal, parle-moi. Je veux entendre ta voix. » Parce que je sais que c'est ça qui permet qu'il y ait du fruit dans ma vie. Des fois, le vigneron est obligé de tailler la vigne pour qu'elle porte encore plus de fruits. Si la vigne n'était jamais taillée, elle porterait un petit peu de fruits, mais pas autant que si elle est émondée. Et le Seigneur le sait très bien, c'est pour cela qu'avec beaucoup de douceur quand même, il sait s'y prendre le Seigneur, il sait venir à nous, même quand on est un petit peu rebelle dans notre cœur, il arrive à trouver les bonnes paroles pour nous convaincre. Mais à un moment donné, il faut l'accepter. À un moment donné, il faut dire « Oui Seigneur, c'est ta parole, et je veux m'y soumettre. » Qu'est-ce qu'il est? Et il faut faire aussi avec douceur. C'est dit aussi dans les Éphésiens, je crois. J'ai pas marqué les références. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous avez vu tous ces verbes? Supportez-vous, efforcez-vous de conserver l'unité de la paix. On voit que ça se fait pas tout seul. On voit qu'il y a un travail. On voit qu'il y a un effort à faire. Il y a la douceur, mais il y a un effort à faire avec la douceur pour rester dans l'unité. Se supporter. Vous avez besoin de la patience du Seigneur, de la douceur du Seigneur pour vous supporter les uns les autres. Amen. Eh oui, si vous n'en avez pas besoin pour les autres, au moins pour votre pasteur, vous en avez besoin. Vous n'en avez pas conscience. Mais on en a tous besoin de cette douceur pour nous supporter les uns les autres. Et c'est cela qui permet que nous soyons de plus en plus unis par le Saint-Esprit. Et quelque part, il est dit que l'amour, c'est le lien même de la perfection. L'amour nous permet d'être vraiment unis les uns avec les autres. Mais parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits, on a besoin parfois, et souvent même, de la douceur du Seigneur pour nous aider à supporter les imperfections de notre frère et de notre sœur, et que eux-mêmes supportent les nôtres. Ça va dans les deux sens. Heureusement qu'on a un Seigneur qui, lui, est parfait. Et qui nous aide dans tout cela. Mais quand il nous regarde, le Seigneur, on en parlait vendredi encore, quand il nous regarde, parce qu'on a choisi de marcher sur le chemin de la perfection, il nous voit déjà parfait. C'est incroyable, mais ce chemin d'équilibre, ce chemin, quand on a les yeux fixés sur le Seigneur, nous rend parfait aux yeux de Dieu, alors qu'on n'est pas encore vraiment. C'est merveilleux quand même. C'est merveilleux. Mais il faut rester sur le chemin. Si on s'écarte à côté, ben on n'est plus considéré comme parfait aux yeux de Dieu. Et tout de suite, il faut revenir, se repentir. Soyez toujours prêt à vous défendre. Ah, il faut se défendre, je vais sortir les gants de boxe. Non, c'est pas ça. Soyez toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on vous dise « Mais pourquoi est-ce que tu crois en Dieu? À quoi ça te sert ta foi aujourd'hui? Dieu n'existe pas, voilà ce que je pense, et toi, qu'est-ce que t'en penses ?» Vous avez déjà entendu des questions comme ça. Et c'est exactement dans ce contexte-là. Non, on laisse les gants de boxe de côté, c'est pas du tout ce qu'il est dit. C'est question de défendre ce que l'on pense, notre conviction par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la vérité de la parole de Dieu, mais le faire avec beaucoup de douceur et de respect. Parfois, les gens, quand ils nous posent ces questions, on a vu d'autres personnes répondre, oh, mais tu es un païen, il faut que tu te reconvertisses, race de vipère et tout ça, parce qu'ils croient que c'est la façon d'évangéliser, mais non, avec beaucoup de douceur et de respect. Vous savez, quand Jean-Baptiste a dit race de vipère, il savait à qui il parlait. Il savait à qui il parlait. C'était des spécialistes de la loi. C'était pas des gens qui y connaissaient rien. Et quand on est dans ces questions-là, quand on nous pose ce genre de questions, les gens souvent sont dans l'ignorance et ils ont besoin qu'on présente la foi, la vérité de la parole de Dieu avec beaucoup de respect et d'amour. Pas essayer de les convaincre, pas essayer de leur mettre la pression, mais avec cette douceur, ce respect, cette patience, cet amour, on pourrait reprendre tous les éléments qu'on a dit jusqu'à présent. Tout ça, tout ce que le package que le Seigneur nous donne quand on est chrétien, pour pouvoir leur parler avec efficacité. Quand on a le cœur endurci, vous savez qu'on emporte la peine. Vous avez vu cette guitare? Qu'est-ce qui se passe si je tourne et tourne et tourne encore? Ça dépend de la direction, tout à fait. Il y en a qui connaissent bien la musique. Mais si je tourne dans un sens et que je tourne jusqu'à la tendre, trop, qu'est-ce qui va se passer? Ça casse. Et vous savez que quand ça casse et qu'on est prêt, des fois on peut se prendre la corde quelque part sur le corps, ça fait mal. On se fait fouetter par une corde de guitare, je peux vous dire, j'ai expérimenté, ça fait mal. Mais c'est exactement ce qui se passe quand on est des fois trop dur, trop sévère, trop raide par rapport à la vérité. À un moment donné, ça casse et ça fait même des dégâts autour. Mais par contre, si je tourne dans l'autre sens, si je tourne, je tourne, je tourne, la corde va totalement se détendre. Et qu'est-ce qui va se passer? Mais ceux qui connaissent savent qu'on essaie de jouer avec, ça va donner aucun bruit. Pourquoi? Parce que la corde, elle a été faite pour une fréquence bien précise, pour rendre un son bien précis, une note bien précise. Si on est trop bas, trop pas assez tendu, ça ne fonctionne pas. Si on est trop tendu, ça casse. Mais Dieu nous appelle à être équilibrés, à ce que de nos vies sorte un beau son, un son glorieux, un son de louange, un son qui glorifie notre Père. Mais c'est pour cela qu'on a besoin de la douceur et de l'amour de la vérité à la fois. Quand on a une foi équilibrée, c'est ce qui se passe en nous. Alors la vérité, qu'est-ce que c'est la vérité? Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et de quelle manière Jésus nous a laissé la vérité entre les mains? Ah, c'est pas une question piège, hein? Il a dit aussi à un moment donné, ta parole est la vérité. Vous vous souvenez de ce passage? Les derniers temps où Jésus était sur la terre, juste avant de vivre toutes les douleurs du mont Golgotha, alors qu'il était dans le jardin de Gethsémané, il fait cet enseignement avec ses disciples et il leur dit, ta parole est la vérité. C'est ça qu'ils ont besoin de retenir et c'est vraiment le fondement de notre foi. On ne parle pas d'une vérité philosophique, on ne parle pas d'une vérité politique ou d'une vérité scientifique, même si tout cela, ça peut être intéressant, mais on parle de la vérité, de la parole de Dieu. Et c'est ça qui est le fondement de notre foi. Ce matin et tous les jours de ma vie, je veux me souvenir que la parole de Dieu, c'est la vérité. Ce n'est pas ce que je pense qui est la vérité. Ce n'est pas ce que j'ai raisonné. Ce n'est pas ce que on m'a appris forcément qui est la vérité. Si c'est pas basé sur la parole de Dieu, c'est pas forcément la vérité. On peut nous apprendre toutes sortes de bonnes choses, hein. On peut faire toutes sortes d'études. Mais la vérité qui va nous permettre de vivre dans une foi équilibrée, c'est la vérité de la parole de Dieu. La vérité, c'est quelque chose à manier avec précaution. Tout à l'heure, il y avait cette image du guerrier qui avait une épée. Quelle est l'épée de l'esprit dans la main du Seigneur? Encore une fois, c'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est cette épée à double tranchant qu'il faut manier avec précaution. Parce que, encore une fois, on peut faire beaucoup de bien, mais on peut faire aussi beaucoup de mal. Même le diable utilise la parole de Dieu pour faire du mal, en détournant les versets. Même à Jésus, la façon dont il s'y est pris à Jésus pour le tenter, c'était avec la parole de Dieu. Faut le faire quand même. Il savait qu'il avait le Fils de Dieu en face et pourtant il utilise la parole de Dieu. Mais Jésus s'est pas laissé faire parce qu'il a compté sur son Père. Il avait une vie de prière. Il était rempli du Saint-Esprit et c'est tout cela qu'il a mis à notre disposition pour que nous aussi nous soyons forts. la vérité de la parole de Dieu. C'est quelque chose qu'il faut manier avec précaution, parce que parfois, certains se sont laissés piéger à la moralisation. On prend des principes de la parole de Dieu et on veut les appliquer à tout le monde, même ceux qui ne sont pas convertis. On veut que la première personne qui vienne dans l'église et qui a un blouson de cuir avec une crête et des piercings partout, on veut que la première fois qu'il rentre dans l'église, il s'habille en costard-cravate. Ça va poser problème. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'il n'a pas envie de le faire, tout simplement. On ne va pas forcer quelqu'un à s'habiller différemment. Comprenez ? Parfois, on veut moraliser les gens plutôt que laisser la parole de Dieu les libérer. Jésus a dit, ils connaîtront ta parole et la parole les affranchira. C'est la parole, la vérité qui affranchit. C'est la vérité, j'ai fait tout de suite le transfert. Ils connaîtront la vérité et la vérité les affranchira, les libérera. Il y a un poids dans votre cœur, il y a une difficulté dans votre âme. Laissez la vérité venir en vous. Laissez le Seigneur vous convaincre par sa vérité et vous allez voir que vous allez être libéré. C'est comme ça que ça marche, parce que c'est les promesses du Seigneur. La moralisation, ça ne fonctionne pas. Je me souviens de cette dame que j'étais allé voir, qui venait dans une église à Toulouse. Et elle est allée avant dans une assemblée d'une confession très légaliste. Donc il y avait des très très forts commandements qu'il fallait obéir. Mais le pire de tout ça, c'est que quand ils ont fait connaissance avec cette personne, il y a deux personnes qui l'ont raccompagnée chez elle et ils se sont mis à fouiller dans sa maison. Et à regarder sur les murs, il y avait un poster d'un chanteur peut-être. Ils ont arraché le poster, mis dans le sac poubelle. Ils ont regardé la CD-tech, la médiathèque plutôt, avec tous les CD. Hop, ça c'est des chants du monde, tout ça on jette. Ils ont vu l'écran plat, hop, bon là j'en rajoute. Ils ont vu l'écran plat, hop, ça c'est le monde, on jette. Et puis le résultat de tout ça, c'est que la femme, elle a perdu des biens. Et elle s'est pas convertie pour autant. Et elle a même été un peu... elle a eu peur de ce que la foi pouvait faire. Mais je peux vous dire que ça c'est pas la foi du tout équilibrée. Ça c'est de la moralisation. Quand on est convaincu personnellement que telle musique n'est pas bonne pour nous, c'est nous-mêmes qu'on va arrêter de l'écouter. On n'a pas besoin de quelqu'un qui vienne faire le ménage. On n'a pas besoin de certaines personnes, je sais pas c'est quoi les émissions aujourd'hui, qui viennent vous faire le ménage à 100% à la maison. Mais on n'a pas besoin de ces personnes-là. C'est le Seigneur qui fait le ménage en nous, dans notre cœur, et nous-mêmes, il nous apprend à vivre de la vérité. Connaître personnellement la vérité, ça nous permet d'être libérés. Comment connaître la vérité ? Il y a un verset qui nous dit tout simplement, je ne sais pas si on l'a lu encore. Je ne crois pas qu'on l'ait lu, mais c'est pas grave. Il nous parle que une fois qu'on aura redressé les personnes avec douceur, le Seigneur nous donnera la repentance pour connaître la vérité. Au travers de la repentance, je choisis de dire, Seigneur, pardonne-moi. Je me suis planté jusqu'à présent. Seigneur, je te demande pardon. Alors le Seigneur nous fait connaître. Il y a une ouverture qui se fait dans notre cœur. Il nous fait connaître sa vérité pour nous apprendre à aller plus loin. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. La vérité, vous savez, elle est d'abord utile pour purifier notre cœur. Ensuite, ça nous aide à nous aimer, et une fois qu'on s'aime, on a la possibilité d'aller redresser avec douceur. C'est ça être spirituel. Nous, on fait les choses à l'envers. Je vais redresser avec douceur mon frère d'abord, puis je verrai si j'ai le temps, je vais m'occuper de mon cœur. Ben non. Je me tiens devant Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Je me tiens devant sa parole. Parle-moi. Montre-moi là où c'est pas bon. Et Seigneur, permets-moi de changer. Je te demande pardon. Je me repens. J'avance. Et puis, j'avance et je m'aperçois que mon frère, il a une faille peut-être dans sa vie. Je vais le voir. Vous savez, parfois, souvent même, souvent encore cette semaine, mais je jette la pierre à personne, mais souvent, c'est un peu le pli qu'on a pris en disant, voilà, j'ai remarqué que mon frère, il y a tel tort qu'il fait peut-être dans l'église ou ailleurs, mais je vais dire au pasteur d'aller le voir. Ça vous est déjà arrivé, ça? Personne. Je peux vous dire qu'il y en a. Ça arrive. Mais c'est un pli qu'on a pris. Mais qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Si ton frère a péché, va voir ton pasteur et c'est lui qui va le reprendre. C'est ça qu'il est dit? Non, pardon. Je croyais à force que c'était ça, mais j'ai bien relu les versets dans Matthieu 18. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Mais va et reprends-le comment? Avec douceur. C'est pas en disant, voilà, le pasteur m'a dépêché pour que je vienne appliquer la justice dans ta vie. Non. Je viens avec douceur, mon frère, j'ai remarqué qu'il y avait ça dans ta vie. Voilà, fais attention, ça peut te faire du mal. Peut-être que j'ai vécu la même expérience et je peux lui expliquer. Et s'il ne t'écoute pas, va voir un frère, un ancien, un pasteur, et va avec lui. C'est ça le principe biblique. Souvent, on veut tout de suite passer à cette étape. Et d'abord, le Seigneur nous apprend à vivre dans l'unité en appliquant ces choses de manière tellement simple. Quand on aime quelqu'un, on n'hésite pas. Je prends cet exemple souvent, mais quand quelqu'un mange et qu'il a une graine de riz sur la lèvre, est-ce qu'on va le regarder pendant une demi-heure en essayant de ne pas rigoler? Parce qu'on l'aime, on va lui dire, tu sais, t'as un grain de riz sur la lèvre. Alors c'est vrai que c'est un petit peu ridicule, il faut faire l'effort de le dire, etc. Mais qu'est-ce qui est le plus ridicule? De lui dire en face tout de suite ou qu'il reste une demi-heure avec son grain de riz? Et c'est exactement la même chose quand il y a un péché qui est là, qu'on remarque envers notre frère. Le Seigneur nous a mis à côté de lui pour prendre soin de lui. Mais avec douceur. La vérité, l'amour de la vérité. On aime la parole de Dieu, il y a des bons principes, mais on veut les appliquer avec douceur. On veut manifester la grâce du Seigneur. Je termine avec cette expérience que j'ai entendue de la part d'un couple que j'ai revu. Geneviève voit qui c'est, c'était lors de la formation de la semaine dernière, qui explique l'absence de mon absence d'ici. On était donc à une formation pour l'aumônerie et on a revu un couple qui racontait que tous les jours, pendant des années et des années, ils ont prié pour leur fils. C'était un garçon qui avait grandi dans l'église, un garçon qui avait tout entendu la parole de Dieu. Mais à un moment donné, il est devenu adulte, il a voulu faire sa propre vie, il a voulu faire ses expériences. On en a vu combien qui ont fait ça. Et il est parti donc dans le monde, il a commencé à se mettre avec quelqu'un, il a commencé à vivre sa vie sans aller à l'église, sans lire la Bible. Mais un jour, pendant des années, les parents, ils étaient là, ils priaient, ils priaient, ils priaient. À chaque fois qu'ils le voyaient, il n'y avait pas une pression en lui disant, il faut que tu reviennes à l'église, reviens, reviens. Non, non, ils ont été dans la douceur. Par contre, la maman lui disait, à chaque fois, elle lui disait cette parole, souviens-toi de tes valeurs. Souviens-toi de tes valeurs. C'était la seule chose qu'elle disait. Souviens-toi de tes valeurs. Et puis, un jour, ce jeune homme, il a eu des déceptions amoureuses, il a eu toutes sortes de choses qui n'allaient pas, et il a commencé à réfléchir dans son cœur. Il a commencé à réfléchir honnêtement, et vous savez combien c'est important, parfois, de s'arrêter, de réfléchir, de regarder ce qui se passe dans notre cœur, honnêtement. Et il s'est rendu compte que les fois où il était le plus heureux dans sa vie, c'est quand il était avec ses parents, quand il était à l'église avec ses parents. Et que jusqu'à présent, son bonheur, il était en train de s'évanouir petit à petit. Et là, au moment où il réfléchissait à cela, il avait l'impression d'être au pire moment de malheur de sa vie. Du coup, il a fait le lien, il a dit, ben, peut-être que c'est avec Dieu qu'on peut être heureux vraiment. Et il a accompagné sa sœur dans une autre ville, il l'a accompagnée à l'église, et vraiment, il a été touché à nouveau par la vérité de la parole de Dieu. Il a été touché parce qu'il s'est rendu compte que ses parents, ils n'ont pas mis la pression, mais avec beaucoup de douceur et d'amour, il l'a entouré. Et il y a quelques semaines en arrière, il s'est vraiment converti. Et jusqu'à aujourd'hui, il nous disait qu'il est en train de dévorer la Bible. Il lit des tas de versets tous les jours. Il y a une soif de la parole de Dieu dans son cœur. Et dans quelques jours, il va s'engager par les eaux du baptême, ce jeune homme. Pourquoi? Parce qu'il y a des parents qui ont persévéré avec beaucoup de douceur qui étaient là pour entourer leur fils. Et parce qu'il y avait un jeune homme qui a un amour de la vérité. Quand on met l'amour de la vérité avec la douceur, je peux vous dire qu'il y a un résultat détonnant. Il y a la foi qui jaillit dans notre cœur, une foi grande, une foi forte. C'est cette foi que Dieu veut que nous ayons dans chacune de nos vies. Alors fermons les yeux quelques instants. Le Seigneur veut nous apprendre encore ce matin à vivre la foi avec cet équilibre. Oui, Seigneur, nous aimons ta parole, parce qu'elle est la vérité. Il y a tellement, Seigneur, de raisonnement, de pensée dans ce monde. Mais Seigneur, nous savons que toute la sagesse de ce monde n'est pas équivalente à ta sagesse à toi. Ta science est au-dessus de notre portée, Seigneur. Et pourtant, tu nous l'as révélée au travers de ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce qu'elle libère. Ce matin, permet que ta parole puisse libérer encore. Ce matin, permet que ta parole puisse sanctifier encore. Ce matin, permet que nous puissions recevoir ta parole avec force, mais aussi avec vérité et conviction dans notre vie. Croyons que tu es le Dieu qui agit avec puissance. Croyons que tu es le Dieu qui veut encore manifester sa grâce. Tu connais, Seigneur, les situations. Tu vois ceux qui ont été blessés parce qu'on leur a fait la morale. alors qu'ils n'étaient pas encore convaincus de par ta vérité. Seigneur, viens, viens, Seigneur, guérir les blessures des cœurs. Viens guérir les cœurs brisés. Que ta douceur, Seigneur, puisse guérir les cœurs brisés ce matin. Que ton amour, Seigneur, que ta bienveillance puisse venir comme un baume sur les corps et faire du bien. Ô Seigneur, merci. Merci parce que quand nous écoutons ta parole, tu nous bénis. Quand nous sommes attentifs à tes commandements, Seigneur, tu nous donnes du bien-être. Merci pour ce jeune homme qui s'est engagé à te suivre parce qu'il a compris que l'endroit où il pouvait être le plus heureux sur terre, c'était dans ta présence. Merci pour ta présence. Merci parce que ta présence nous est acquise à cause du sacrifice de Jésus à la croix. Merci parce que tu n'es pas resté à la croix, mais que tu es vivant et que tu habites maintenant dans le cœur de tous ceux qui placent leur foi en toi, Seigneur. Voilà l'espérance qui nous habite. Voilà, Seigneur, l'espérance qui nous anime. Merci, Seigneur, pour ta présence et pour ta parole. Amen.